Et donc shalom à tous, Be'ezrat Hashem, nous sommes donc dans notre cours qui a eu un petit arrêt par rapport à Hanouka, et nous reprenons Be'ezrat Hashem le texte. Est-ce que vous le voyez?
Oui.
Voilà. Alors, nous sommes dans le Perek Shlishi, Perek Gimel. Nous avons parlé de la notion de Bechira, c'est-à-dire de la notion de choix qui a été donnée à l'homme, et c'est en cela qu'il y a une possibilité de punition entre guillemets et de récompense. Nous avons expliqué que le corps était fabriqué avec une neshama, c'est-à-dire qu'il y avait une combinaison corps et neshama. Et aujourd'hui, nous allons monter de niveau pour parler en réalité de l'expansion de ces deux degrés qu'on appelle Olam Hazeh et Olam Haba. Donc nous sommes face à un sujet qui est énorme. Malheureusement, nous avons une mauvaise traduction, puisqu'en hébreu, le Olam Haba, vous avez l'habitude de le traduire comme le monde futur, alors qu'en hébreu, c'est au présent, Olam Sheba. Il n'y a pas marqué Olam Sheyavo, le monde qui viendra, on dit Olam Haba. Il n'est pas moins au présent que le Olam Hazeh. Alors, quelle est la différence? C'est que le Olam Hazeh est visible, il est de l'ordre du corps, et le Olam Haba est invisible, il est donc de l'ordre de la Neshama. Donc, vous vivez continuellement avec une combinaison du Olam Hazeh, votre corps, et du Olam Haba, votre Neshama. Et s'il y a, chas v'shalom, séparation entre Olam Hazeh et Olam Haba, il y a tout simplement arrêt de vie. Il n'y a pas de vie. Donc la véritable vie, c'est la combinaison du Olam Hazeh, le corps, et le Olam Haba, la Neshama. En sachant ce degré-là, nous allons entrer dans l'explication du Ramchal alav shalom pour expliquer en réalité comment arriver à ce degré-là et à vivre le Olam Hazeh et à vivre le Olam Haba. Ve'omnam, donc on reprend le texte, Gazar tuvo yitbarach, la bonté de Dieu a décrété Shiyegvul leishtadlut hazeh, amitztarech la'adam lehasig hashlemut. Il y a une fin, il y a une limite, il y a une frontière à tous les efforts que l'homme doit faire dans ce monde. Autrement dit, on ne nous demande pas de faire sans cesse, sans cesse, sans cesse des efforts. Il y a une limite même à ces efforts-là. Ukshishlim ishtadluto, quand l'homme a terminé de faire ce qu'il peut, vous comprenez bien qu'il y a quand même beaucoup de marge, parce que jusqu'où on va dans la frontière, jusqu'au point où on ne peut plus. Mais on nous demande néanmoins d'aller jusqu'où tu peux. Donc ça demande quand même un effort de la part de l'homme d'aller au maximum de ses possibilités. Je vais le dire avec d'autres termes, parce que là on a l'impression que Dieu nous fait une remise, et qu'on n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Non. Il faut aller jusqu'au maximum de tes possibilités. Autrement dit, jusqu'au maximum de ce que Dieu a mis en toi comme possibilité. Je vous rassure, personne, malheureusement, personne d'entre nous n'arrive au maximum de ses possibilités. Parce que si on vivait au maximum de nos possibilités, bien, on serait au niveau de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'ailleurs, nous nous posons la question, « Matai yagi ou ma'asai le ma'asai avotai » Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, nous avons encore de la marge, vous pouvez encore faire des efforts, vous n'êtes pas arrivé au bout de votre effort. Mais, quelqu'un qui l'a fait, en admettant que c'est possible, Sheishlim ishtadluto, lorsque cette personne a terminé de faire des efforts, tels que Dieu a implanté en lui cette capacité, eh bien, que se passera-t-il après ? Yasig shlemuto. Il va atteindre sa complétude, sa perfection. Vous comprenez bien que c'est relatif. Donc, c'est la shlemut à lui, par rapport à lui, par rapport à ses données à lui. Mm-hmm. Pas la shlemut. Pas marqué yasig ha shlemut. Non, shlemuto. Lui, ce qu'il peut, lui, pour lui, c'est quelque chose de complet, d'entier. Et alors, une fois qu'il a atteint cette complétude, eh bien, Veyan Noir, là, va commencer une nouvelle étape, celle du repos. Qu'est-ce que c'est que ce repos? Alors, en français, c'est ce qu'on comprend, le repos par rapport à un effort que j'ai fourni. Mais en réalité, dans le mot « yanouach », il y a le mot « lanouach ». « Nachat »,« nechita ». Si j'utilise la terminologie en hébreu, je parle en réalité de quoi ? De pouvoir atterrir. « Linchot ». C'est-à-dire que je peux trouver une assise à ma vie. Je peux reposer, je peux me poser. C'est-à-dire que l'âme va trouver un repos parce qu'elle se pose. Une âme qui souffre ne se pose jamais. Comme la fameuse colombe que Noah a envoyée et qui n'a pas trouvé de main Noah. Elle n'a pas trouvé de repos, les kafragla. Quand est-ce que vous vous reposez dans la vie? Lorsque votre âme s'est déposée sur quelque chose de concret. Et je vais vous donner un exemple. Quand Akadosh Baruch Hu, par exemple, fait en sorte que tel jour dans l'année soit une date d'une certaine fête. On va imaginer, par exemple, notre prochaine fête, okay, Pessah, la grande fête. Je ne parle pas maintenant de Pourim, je ne parle pas d'autre chose, je parle des Shlosha Regalim. On va comprendre ce que ça veut dire. Quand il y a une fête dans le calendrier humain dans lequel nous sommes, eh bien, c'est une forme de repos pour Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il se pose sur terre avec une certaine qualité qui a trouvé en fait une assise. Comme si la profondeur de Pessah, avec toute l'énergie de Pessah, a trouvé un ustensile de réception pour s'y déposer. Et donc, lorsque Dieu se dépose, et d'ailleurs l'expression en hébreu, c'est « Matay Yachoul Pessah ». Quand est-ce que Dieu va se déposer dans ce monde sous la forme de la fête de Pessah ? Et ça, c'est ce qu'on appelle la Menoucha. Donc, à chaque fois que tu arrives, toi, l'homme, toi, la femme, à te déposer, à trouver une assise dans ta vie, dans n'importe quel domaine, on appelle cela du nachat. Et c'est pour ça que le chatan cherche du nachat. Ce sont les mêmes lettres chez sa kala. Qu'est-ce que c'est que la kala, donc ? Comme on le dit en hébreu, yecholet ha-chala. Alors, vous vous dites « kala », mais en réalité, ce sont les mêmes lettres. « Capacité à contenir ».« Yecholet ha-kala »,« yecholet ha-chala ». Donc, si l'homme trouve une femme qui est capable de le contenir, eh bien, l'homme n'est plus un khatan. Il est un khatan qui a trouvé du nachat. Vous inversez les lettres parce qu'il a maintenant un kli ha-chala que vous appelez « ha-kala ». Vous comprenez? Donc, en réalité, c'est exactement la même chose. Lorsque l'homme a fait des efforts dans sa vie pour faire tout ce qu'il peut pour rajouter du Kodesh dans le monde, eh bien, arrive un temps où il est dans la Menoucha. Il y a Noach Behana'ato. Et de quoi est composée cette Menoucha? Behana'ato, d'un plaisir. Il y a un plaisir là-bas. Et ce plaisir-là, les Netzach Netzachim, il est éternel, pour l'éternité des éternités. Autrement dit, il y a une grande différence, et il est très important de faire un petit arrêt pour comprendre cela, c'est que le temps, Gvoul, il y a un temps, il y a une limite pour la Ishtadlout, vous voyez bien. Ça veut dire que le travail fourni, lui, est limité. Mais la Menoucha, elle est éternelle. Donc il y a une démesure entre le temps où tu as fait des efforts et le temps où tu profiteras en réalité des efforts que tu auras fournis. Et là, c'est un cadeau divin, parce qu'on n'est pas récompensé au même degré de temps. Par exemple, j'ai travaillé 10 heures, je vais avoir un repos de 10 heures. Pas du tout. J'ai travaillé 10 heures. Si pendant ces 10 heures, j'ai utilisé tous mes pouvoirs, eh bien, j'aurai un repos éternel. C'est extraordinaire. Alken, c'est pourquoi, il y a deux temps qui lui ont été réservés. Aleph, premier temps, ce qu'on appelle Zman Ha'avoda, le temps du travail, donc de fournir tout ce qu'il peut fournir, de faire les efforts dans tout ce qu'il fait dans sa vie. Ve'alef, un deuxième temps, Zman Kibul Ha'Sachar, le temps de recevoir sa récompense. Et là, je vous ai mis en diagonale, ça c'est moi qui le rajoute, d'une manière générale, Ha'avoda hi bemeshech sheshet alfei shanim. D'une manière générale, le temps qui a été permis pour faire le travail de l'humanité tout entière, c'est 6000 ans. Là, on a parlé de l'homme au niveau individuel. Et là, j'élargis un petit peu pour vous parler de l'homme en général, de l'humanité. L'humanité a 6000 ans pour fournir ce travail. Donc, vous voyez que c'est limité. Après les 6000 ans, c'est une Gemara dans le traité de Sanhedrin, une fois que les 6000 ans sont passés, Ve'olam ha'sachar en lo gvul. Le temps de la récompense n'est plus un temps, parce qu'il est illimité, parce que de toute façon, vous touchez un monde qui n'est pas de ce monde temporel. Je reviens aux deux notions, le corps et la neshama. Est-ce que le corps a un temps? Oui. Est-ce que la neshama est soumise au temps? Non. Donc vous comprenez que tout ce que vous allez utiliser dans votre vie, dans n'importe quel domaine, n'importe quel sujet, à chaque fois que vous parlez de l'âme, les choses se font instantanément. Alors que pour le corps, cela prend du temps. Donc pour guérir une âme, ça prend un instant. Pour guérir un corps, eh bien, ça dépend du temps, parce que le corps est soumis au temps. Alors là, je vous explique, par exemple, la sortie d'Égypte. Pendant la sortie d'Égypte, il y avait deux sorties. Il y avait la libération de la Neshama, et il y avait, en même temps, la libération du corps. Alors, et vous voyez très bien que la libération de la Neshama s'est faite en combien de temps? En un instant. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que nous sommes sortis d'Égypte, Bechipazon. Qu'est-ce que c'est Chipazon? C'est une rapidité qui ne prend pas de temps, parce que c'est un degré qui n'est pas soumis au temps. Par contre, pour libérer le corps, eh bien, nous travaillons jusqu'à aujourd'hui. Alors la question se pose, parfois des gens vous disent que nous sommes sortis d'Égypte et il y a marqué le Cherut Olam, que nous avons été libérés à jamais. Effectivement, de quoi on parle? De la Neshama. Notre Neshama a été libérée. Et le corps, ça lui prend beaucoup plus de temps pour être libéré. Donc à chaque fois que vous parlez du corps, c'est un temps. À chaque fois que vous parlez de la Neshama, c'est hors du temps. Or, le Olam Haba est au niveau de la Neshama, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, à chaque fois que vous parlez du Olam Haba, c'est en dehors du temps. Et là, vous allez comprendre une notion un petit peu plus profonde, la Teshuva. la Teshuvah, elle aussi, elle est et dans le Olam Abba et dans le Olam Hazeh. Combien de temps ça prend à faire Teshuvah? Un instant. C'est une décision. Et combien de temps ça met pour que cette Teshuvah descende et s'habille dans le corps et dans nos actions? Peut-être 2 vies, 3 vies.
T'as l'air.
Vous comprenez? Donc vous avez ici quelque chose qui est extraordinaire, c'est un phénomène qui est double. C'est à chaque fois que vous parlez, il faut que vous sachiez qu'il y a 2 degrés parallèles. 1 degré qui n'est pas soumis au temps et qui est immédiat, et 1 degré qui est soumis au temps et qui, lui, prend du temps. Et c'est comme ça que vous allez comprendre les notions. Maintenant, ce décalage, un jour, va s'arrêter, car le corps va monter à la même finesse, au même raffinement que la Neshama, ce qui fait que tout va se passer en même temps, instantanément. D'ailleurs, on vient d'un degré comme celui-ci. Rappelez-vous Adam et Ève, chez eux, le temps n'était pas le temps que nous connaissons aujourd'hui. À tel point que la Gemara nous dit que Adam et Ève, lorsqu'ils sont montés sur leur lit, entre guillemets, pour avoir des rapports, ils sont montés 2, Adam et Ève, et ils sont descendus 7. Alors aujourd'hui, on aurait un petit peu peur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que le temps de la fécondation à cette époque là-bas n'était pas le même temps qu'aujourd'hui. Une femme était enceinte en même temps qu'elle accouchait. C'était instantané. Il n'y avait pas de temps de gestation. Pourquoi? Parce que le corps lui-même était tellement raffiné qu'il était au niveau de l'âme. Donc cela ne prenait pas de temps. Et plus nous sommes éloignés de la racine et que le corps est tombé, il s'est séparé des notions de la Neshama, eh bien nous sommes de plus en plus au niveau du temps. Mais lorsque nous remontons vers la source par la Teshuvah et que nous sommes en train de nous rapprocher, écoutez bien maintenant l'expression, de la fin des temps, donc de la fin du temps. Donc le temps va avoir une fin. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Eh bien, les choses que vous allez faire vont avoir une solution immédiate. Entre les raisons premières et les manifestations, il n'y aura plus de temps. Les causes et les résultats vont se toucher. Donc nous sommes en train de repartir vers un monde où les sources et les résultats sont de plus en plus proches. Donc vous sentez que vous passez de Shabbat en Shabbat. Les semaines vont marcher très vite. Le temps va être très rapide. Les années vont passer beaucoup plus vite. Pourquoi? Tout simplement, même s'il y a un temps, même si vous avez des montres, mais la notion de temps ne sera plus la même jusqu'au moment où le temps disparaîtra complètement. Et là, la prophétie dit que la femme va être hara, enceinte, veyoledet yachdav. Elle va être enceinte et elle va accoucher en même temps. Et celui qui marche sur les raisins pour faire du vin, dorech anavim bemoshech hazera. Il va être en même temps que celui qui prend les raisins. Ça veut dire au moment où tu as pris le raisin et le moment où tu as du vin, normalement cela prend beaucoup de temps. Et là, ça ne prendra plus de temps. Donc, nous sommes en train de rétrécir les notions d'espace-temps. C'est pour ça qu'il est plus rapide maintenant d'atteindre un autre côté de la planète. C'est pour ça qu'il est plus rapide maintenant de se contacter entre nous par Zoom. Donc, tout est en train de se raccourcir. Donc, nous faisons des courts-circuits.
Dès qu'ils vont engager, ça va être un fatigue.
David?
Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on a l'impression que les journées sont plus courtes?
C'est ce que je suis en train d'expliquer. Depuis tout à l'heure, je vous explique que le temps passe très vite et que nous passons de Shabbat en Shabbat. J'ai même une femme à Nice, quand j'ai donné un cours, qui m'a dit « Monsieur Rabbin, je débranche même plus la plata ». Ça veut dire qu'on passe d'un Shabbat, on a l'impression que c'est dimanche et tu es déjà vendredi. C'est incroyable.
Et c'est depuis le retour en terre d'Israël ou c'est depuis 6000 ans que ça accélère?
C'est depuis, c'est-à-dire que ce processus va depuis la sortie d'Égypte en se rétrécissant, mais il est beaucoup plus clair devant nos yeux à partir de l'année 5760. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais le circuit est devenu un circuit lunaire et non plus un circuit solaire. Or, le circuit lunaire, il fait le tour deux fois par mois parce que la Lune est croissante et décroissante. Donc, elle est deux fois plus rapide chaque mois. Or, si on prend, par exemple, le tour de la Terre par rapport au Soleil, c'est 365 jours.
Ouais.
Donc, on va dire que c'est 12 mois. Mais la Lune, c'est deux fois 12 mois. Donc, la multiplicité va être de 24. Donc, la vitesse à laquelle le temps passe, c'est 24 fois plus vite. Vous multipliez le temps que vous avez connu dans votre jeunesse, les journées ne se terminaient pas. Et le temps d'aujourd'hui, où vous avez l'impression que tout court. Alors, je continue donc. Vous avez ces deux notions. Il faut toujours, toujours savoir avec quelle notion nous sommes en train de parler. Alors, au niveau de la Neshama, vous comprenez tout de suite. Au niveau du corps, ça prend du temps. D'ailleurs, même quand on guérit d'une certaine maladie, la conscience est déjà guérie, que le corps, lui, il veut encore continuer parce qu'il se dit que ce n'est pas possible aussi vite. Donc, il y a beaucoup de gens qui soignent, qui sont déjà soignés, qui sont déjà guéris, mais étant donné qu'ils n'ont pas encore subi au niveau de leur corps, ils ont l'impression que ce n'est pas possible, c'est trop rapide. Alors qu'en réalité, c'est vrai. On peut faire les choses aujourd'hui très vite. Et je vais vous donner une clé. Plus vous faites des choses, plus vous aurez le temps d'en faire d'autres. Incroyable. Incroyable. Les gens qui ne font rien n'ont pas le temps. Et les gens qui font beaucoup de choses ont encore du temps pour en faire d'autres.
C'est vrai.
Tout simplement parce que la notion de temps est un panier. C'est un panier dans lequel tu mets plein d'actions. Et plus tu fais des actions, plus le temps s'élargit. Donc, dire aujourd'hui, je n'ai pas le temps, c'est un problème. Même si le temps passe très vite, tu peux faire beaucoup de choses dans ce petit temps, entre guillemets, parce que tout est relatif au niveau de ta tête, de ton psyché. Je reprends le texte. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent?
C'est valable aussi pour les Oumot?
C'est valable aussi pour les nations du monde, bien entendu, parce que tout ce que Israël fait, c'est aussi valable pour les nations du monde. Je vais vous donner un exemple de la paracha de la semaine. On vient de lire ce Shabbat. Yosef était 12 ans en prison. En combien de temps il est devenu roi? En un instant. Il y a marqué « Vayeritsuhu min habor ». Ils l'ont fait courir de son trou. C'est-à-dire, il était au fin fond de la prison et il est devenu roi en une nuit. D'ailleurs, l'ange Gabriel est venu lui enseigner 70 langues pour qu'il devienne roi d'Égypte. Parce qu'on ne peut pas être roi d'Égypte si on ne connaît pas 70 langues. Est venu l'ange Gabriel pour lui enseigner en une nuit 70 langues. Alors, imaginez-vous le décalage. 12 ans en prison. C'est une éternité. Alors que Yosef est dans un état où il ne croit plus sortir, en un instant, il devient roi d'Égypte. C'est la même chose au niveau de la Géoula. On a l'impression que ça traîne, ça traîne, ça traîne, et la Névoa nous dit « Pit'om yavo ha-melech el-le-hechalo. » En un instant, subitement, le roi va rentrer dans son palais. Tu ne vas même pas comprendre ce qui se passe. Et je vais vous montrer les choses. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont aveugles alors que nous sommes en plein processus de la Géoula. Les gens ne le voient pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on vous a expliqué, malheureusement, que la Géoula, ce n'est que l'apparition du bonhomme qu'on appelle Mashiach. Et vous n'avez pas compris que la Géoula est un processus. Alors malheureusement, on nous a massacré le système de la Géoula dans la tête, à tel point que les gens, tant qu'il n'y a pas de Mashiach, ce n'est pas la Géoula. Et moi, je suis en train de vous dire exactement le contraire. La Géoula, elle a commencé depuis longtemps. On est en plein dedans. Certes, le Mashiach n'est pas encore dévoilé, mais regardez toutes les prophéties qui sont en train de se faire. Et je ne vais pas vous demander de reprendre les prophéties que vous connaissez tous. Je vais vous montrer des prophéties que vous ne connaissiez pas, ou alors que vous ne faites même pas attention qu'elles sont en train de se réaliser de notre temps. Je veux parler de la Teshuvah des enfants d'Ishmaël. Mmh. Les Arabes aujourd'hui, dans le monde entier, toutes les semaines, il y a un État arabe qui reconnaît Ismaël. Mmh. Ça nous passe à côté dans les informations du jour, comme si c'était rien passé.
Non, mais c'est clair. En plus, ça s'appelle Esquem Avraham.
C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qu'on a rêvé, que c'était même pas possible qu'un jour on puisse arriver là, toutes les semaines, on a un pays et un autre pays. On s'est tellement habitué que ça nous fait rire. On ne comprend pas qu'il s'agit là d'un phénomène, d'une révolution.
C'est une révolution, oui, c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Alors, demande aux gens dans la rue, non. Pourquoi ? Parce que Bibi les énerve. C'est tout ce qui compte.
C'est grave.
Regarde ce qui est en train de se passer dans le monde. Ribono shel olam, tu ne vois rien. Tu es aveugle. Oui, il y a des gens qui sont aveugles quand ils ne veulent pas reconnaître, comme à la sortie d'Égypte, 80 personnes sur 100 ne voulaient pas reconnaître. Et ces personnes-là sont mortes dans la plaie des ténèbres, dans tous les sens du terme. C'est des gens qui meurent de ne pas voir. Et je vais vous donner une clé. Si vous voulez vivre à cette époque que nous sommes en train de vivre, il faut que vous ouvriez les yeux. Les gens vont mourir aujourd'hui parce qu'ils ne voient pas la Géoula, comme ça l'était à la sortie d'Égypte. Et ceux qui vivront, c'est ceux qui verront et qui reconnaîtront la Géoula au moment où elle se passe et elle se dévoile sous nos yeux. Donc, tout dépend du spectateur de l'expérience divine et non pas de l'expérience elle-même. C'est moi. Est-ce que j'ai les yeux adéquats pour voir ce que Dieu est en train de faire? Ou bien est-ce que je suis un aveugle qui ne voit rien? Est-ce que j'ai fermé les yeux parce que certains degrés m'énervent? Et à force d'être énervé par Bibi, tu ne vois pas la Géoula. C'est ça le problème. Quand je dis Bibi, je peux dire un autre, c'est pareil. Donc il faut bien avoir cette conscience que nous sommes en plein dans ce processus, bien, bien, bien au milieu, vers la fin. Et ceux qui disent « Oh, on attend la Géoula », ce sont des ingrats. Ce que vous devez attendre, c'est la fin de ce processus. Mais dire, comme s'il n'y avait rien encore, parce que le monsieur Mashiach n'est pas encore là, qu'il n'y a pas de Géoula, il n'y a pas pire comme non-reconnaissance, comme médiocrité de l'âme, comme ingratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu de l'histoire d'Israël. Donc, vous voyez que le bien est toujours plus fort que le mal, mais il y a une différence. C'est que le mal est visible et que le bien est caché. Et où est-ce qu'il est caché, le bien ? Dans le mal. Un exemple, les sept belles vaches qui sortent du fleuve du Yéhor. Et elles sont mangées, avalées par sept vaches maigres. Où sont les grosses vaches? À l'intérieur des maigres. Mais vous, quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Les maigres. Donc, velonoda ki ba'u el kirbena. Et ceux qui voient les vilaines vaches très maigres ne savent pas que tout entière à l'intérieur, elles sont remplies de belles vaches. Donc en réalité, toi, tu vois l'histoire humaine, tu vois l'état d'Israël, tu vois l'état du monde et tu te dis « Oh la vache !» Alors qu'en réalité, les belles vaches sont à l'intérieur de tout ce processus. Alors qui est-ce qui peut les voir, ces belles vaches? Bien, celui qui connaît le système, qui a vu les belles vaches sortir et qui a vu les vaches maigres avaler, engloutir les belles vaches. Mais c'est la même chose dans votre vie. Parfois, vous avez un élément de bien et puis vous avez un tout petit souci à côté. Et ce souci, alors qu'il est maigre au départ, comme les vaches maigres, il est devenu tellement grand que le bien que vous aviez il y a 5 minutes, vous l'avez oublié. Bande d'ingrats que vous êtes. Alors, vous donnez le poids à qui? Au souci. Il est venu, il a avalé le point de lumière. Et toi, tu ne sais pas dire merci, mon Dieu, pour ce point de lumière. Par contre, quand il y a un souci, alors là, tout le monde est là. C'est la même chose dans notre vie. C'est ce qu'on appelle une Aïn Tova ou une Aïn Ra'a. C'est la capacité à voir le Tov ou la capacité à voir le mal partout. Et faites un examen de conscience avant de dormir ce soir. Est-ce que je suis parmi les hommes qui voient le bien dans ce monde ou qui voient toujours le mal et qui râlent sans arrêt pour tout? Il y a des gens qui sont râleurs dans tout. Mais tu ne peux pas vivre la Géoula parce que même quand elle se développe sous tes pieds, sous tes yeux, tu n'es pas capable de la voir. C'est terrible. Il n'y a pas plus grande punition que de vivre la Géoula et de croire qu'elle n'a pas commencé. C'est une punition. Veulam, je continue notre texte. Midat Tov Merouba, le bien que nous vivons, il est beaucoup plus grand. Shehaavoda yesh lazman mechukak, parce que le temps de travail, d'effort, il a une limite. Kemo shegazra chokhmato itbarach, comme l'a défini la sagesse divine, béni soit-elle. Heyoto naot leze. Autrement dit, le temps du travail, des efforts que je dois fournir en tant qu'homme, en tant que femme, ça a une limite. Par contre, vekiboul asachar, le temps de la récompense, de recevoir, en lo tachlit, il n'a pas de fin. Vous avez déjà vu un bon Dieu pareil? C'est extraordinaire. Tu achètes pour 1 kilo de tomates, il te donne un champ. Infini. En lo tachlit. Et là, la netzach netzachim, le bien que Dieu te donne pour un effort qui était temporel, eh bien, la récompense est intemporelle. Et non seulement tu te délectes, mais je vous ai souligné ici veolech. Pourquoi j'ai souligné veolech? Parce que non seulement tu reçois un bienfait éternel, mais ce bienfait n'est pas statique. Il évolue. Ça veut dire que tu vas en ayant du plaisir, j'allais dire de kiff en kiff.
C'est kiff-kiff.
Tu ne t'arrêtes pas. À chaque fois que tu crois que tu es arrivé au summum du plaisir, on te dit non, marche encore, tu vas voir, c'est encore mieux dans 1 mètre. C'est magnifique ça. Beshlemut asher kanalo. Tout ceci par les efforts que tu auras fait durant ta vie. Pourquoi? Tout simplement parce que l'étage de la récompense, les mal
infini, le netzach netzachim.
Tout à fait. Beseder? Veoler, je voulais marquer ici, sauf brachot, dans la fin du traité de brachot, talmidei chachamim en laem menucha. C'est pour ça que les talmidei chachamim n'ont pas véritablement un repos. Pourquoi? Yelchou, parce qu'ils sont toujours en marche. Mechaïl el chaïl. Autrement dit, ils vont de plaisir en plaisir. Et dans ce sens-là, ça vaut le coup de ne pas avoir de repos. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu crois que tu as atteint le sommet du plaisir, on te dit, mais pas du tout. Dans un mètre, ce sera mieux.
C'est comme un ressort.
C'est extraordinaire. Alors, appelez-le un ressort. Appelez-le, c'est votre ressort. C'est de votre ressort. Il s'agit. Donc, vous pouvez profiter de ce degré-là. Maintenant, nous allons voir le changement. Chilouf matzavei ha'adam bechilouf zmano. Les états de l'homme sont par rapport au changement de temps. D'accord ? Vous savez que le temps en hébreu, ça s'appelle shniyut. Pas seulement zman. Shniyut, c'est le temps. Akadosh Baruch Hu a créé la lettre bet. Bet, reshit. Donc, il a créé le temps. Donc, la nature du temps, c'est le 2. C'est shnaim. En hébreu, shnia. Donc, à chaque fois que vous voulez compter, même en français, une seconde, pourquoi vous l'appelez une seconde? Parce qu'il y en a deux. Une seconde. Donc, le temps, c'est toujours un 2. Mais chez Akadosh Baruch Hu, qui est 1, le temps n'existe pas. Parce qu'il est 1. Et je vous ai dit que là-bas, les sources et les résultats, les causes et les conséquences se touchent. Mais chez l'homme, qui est basé sur le 2, Achat diber Elohim, Shtaim zu shamati, nous sommes dans le monde de la pluralité, de la dualité, du 2, de la shniyut. Eh bien, il y a des chiloufei matzavei ha'adam. Bien, l'homme change. Un coup il est heureux, un coup il te fait la gueule, un coup c'est Tisha B'Av, un coup c'est Pourim. Tu sais pas pourquoi. Un coup il rit, un coup il pleure. À chaque fois il a des changements d'humeur. Vous savez quand est-ce que vous êtes face à un tzaddik? C'est qu'il est toujours pareil. Parce qu'il commence à devenir comme Akadosh Baruch Hu. Qui n'a pas de changement d'humeur, qui est toujours dans la simcha, chez la simcha bimono. Et quand vous avez affaire à des voisins mchenef, qui un jour vous font la gueule, et le lendemain ils vous font un sourire, on dirait que vous avez passé la nuit ensemble, là il y a un problème. Alors qu'il faut gagner de cette régularité dans le monde. C'est là où on voit quelqu'un de stable et non pas de lunatique comme la lune. Elle monte et elle descend, elle monte et elle descend. Lunatique. Saharouri, on dit en hébreu. Sahar, c'est la lune. Sihara, en araméen, la lune. Il y a des gens qui sont comme la lune. Un jour il est plein, un jour il est vide. Un jour il est plein, un jour il est vide. Et Boalek, le jour où tu le rencontres. S'il est plein, tu as gagné le loto. Mais s'il est vide, il te fait une tête au carré. Alors regardez comment ça change. Ve'oulam, excusez-moi, je parle de plus en plus en français. Hein. Donc je vous utilise des terminologies françaises. Parce que c'est aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps vous n'êtes pas mis les pieds en France, mais c'est comme ça qu'on parle. Hein.
Ah oui?
Avec ma mère. Ah oui. C'est comme ça, dans toutes les bonnes, je te jure, madame. Voilà. Voilà, je te raconte pas d'histoire. Aujourd'hui, c'est comme ça. Veulam, kefi hitralef zmanav, de la même manière que les temps changent, kach raoui shi hitralef matzavo ou shar mikrav, donc les hommes changent sans arrêt. Parce que les temps changent et donc les hommes changent. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un petit peu délicat. Oui, mais comment est-ce que je peux utiliser ce changement dans le bon sens? Écoutez bien, c'est que j'apprends à parler le langage qui correspond au temps. Si je vous donne un cours aujourd'hui, Shnat, Taf, Shin, Pe, Aleph, et que je vous parle comme un rave qui était en Shnat Tarapapou, ça ne va pas. Donc là, je vais utiliser la faiblesse pour qu'elle devienne un bonus. Ça veut dire que j'utilise le changement, mais pour m'adapter au kahal que j'ai devant moi et à l'époque que j'ai devant moi, pour savoir quel est le langage de la génération avec laquelle je suis en train de parler. Qui kolzman haishtadlut. Et donc, tout le temps où j'ai fait des efforts, hine tsarich shiye betruna achat, shiyuchlu leimatze bo kol ha'inyanim mitztarchim lo lefi inyan haishtadlut haze. Ça veut dire que dans le domaine de mes efforts pour faire du Kodesh, Akadosh Baruch Hu me met à disposition tout ce que j'ai besoin. Pérouche, explication. Ki hine mukhrach shetimatze lo hamilchama. En diagonale, habechira. C'est-à-dire que quand l'homme doit choisir entre le bien et le mal, ou choisir entre deux choses, il faut qu'il ait toujours le choix. Il faut que ce choix soit équilibré. Vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu a endurci le cœur de Paro? Je suis en train de vous dire quelque chose, et là, apparemment, c'est une stira. C'est contradictoire. Si Dieu endurcit le cœur de Paro, ça veut dire que Paro n'a plus de choix. Pas du tout. Lorsque Paro voit les makotes, quelle est sa nature? Qu'est-ce qu'elle lui dit, sa nature? Il faut obéir à Dieu. Tu vas mourir. Alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu pour le remettre au niveau? Vayachbed Hashem et lev Paro, pour le mettre toujours au niveau. Ça veut dire que le choix que vous allez avoir dans votre vie est toujours le même. Vous avez 100% la possibilité de faire du bien, vous avez 100% la possibilité de faire l'inverse du bien. Donc Akadosh Baruch Hu va mettre tout à notre disposition, chez Zacharnou, Ben Asechel Vachomer, pour avoir les deux degrés. Est-ce que je vais choisir plutôt le degré de la matière ou le degré du Sechel? Vous êtes aperçu, je ne sais pas si vous avez reçu le cours de ce matin, peut-être pas tout le monde le reçoit, mais Yosef Hatzadik est arrivé à une domination de tous les éléments, du minéral, du végétal, des animaux et des hommes. Puisqu'il a acheté toutes les terres d'Égypte. Et les terres étaient avec leur Yevoul, avec leur Tnouva. Donc, il a acheté le minéral et le végétal. Il a acheté tous les animaux. Et il a transformé les hommes d'un côté et de l'autre. Ça veut dire que Yosef HaTzadik, c'est super Wonder Woman et Superman en même temps. Et non seulement ça, il devient le roi de quoi? De la matière. Puisque l'Égypte, c'est la matière. Donc, Yosef, il est Melech Mitzrayim, le vrai roi d'Égypte. Paro, c'est comme le Nassi à Médina. De temps en temps, il fait Zama, un petit discours. Kvod Nassi, oh. Mais qui c'est qui fait réellement le travail? C'est Rosh HaMemshala. Eh bien, la même chose, Yosef HaTzadik, c'est lui qui dirige. De temps en temps, on amène par haut pour qu'il fasse comme ça avec la main. Donc, Yosef, ce n'est pas le roi de l'Égypte, c'est le roi de la matière. C'est le roi de la terre. D'ailleurs, il le dit dans le rêve. Ayare arve Hashem, et je vais à Kochavim, Mishtachavim li. J'ai toute la matière, tout le Yekoum, tout le cosmos. Il est soumis à moi. Ça veut dire que moi, Israël, Yosef, c'est Israël, je peux dominer tout. Velo yelo davar sheyakev et achomer milishlot. Donc, rien ne va venir t'empêcher de mettre la matière pour qu'elle domine. C'est-à-dire qu'on te laisse vraiment le choix. Ça veut dire que personne ne va te dire « Oui, mais tu m'as pas donné vraiment. » Non, 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 tu pouvais tout faire. Et la même chose. Donc, ni d'un côté, ni de l'autre, on va venir t'embêter dans la vie. Avant-hier, j'ai dit à quelqu'un, tu peux un petit peu être discret. C'est quelqu'un qui, là où il est, on n'entend que lui. Alors je lui dis, vraiment, je te parle comme un ami. Tu peux un petit peu être discret. Regarde Akadosh Baruch Hu, regarde cette discrétion. Il y a même des gens qui pensent qu'il n'est même pas là, qu'il n'existe même pas, tellement il est discret qu'il disparaît complètement. Tu ne peux pas un petit peu être comme lui? Ça veut dire qu'il y a un izun mushlam pour qu'il y ait une bechira amitit. Vechen, lo yedavar sheigrom lachomer leitrazek yoter min haraoui. Rien ne va faire en sorte que la matière va devenir d'un coup trop forte. Ça n'existe pas. Vegam lo igrom la sechel leitrazek yoter min haraoui. Mais la même chose au niveau du sechel. Akadosh Baruch Hu va te laisser la Bechira entière al kana. Ki afal pi she mitzad echad haya nir'e ze yoter tov. Hine lefi hakavana amitit vehainyan hanirtze ba'adam shehu kniyat hashlemut bishtadluto einenu tov. Il dit le Ramchal ici quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une question qui revient à tous les cours. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a pas fait directement bien, qu'on soit attiré par le bien, qu'on fasse que le bien, et comme ça, il n'y a pas de souci? Pourquoi il nous met tout ce Yetzer Hara, et tous ces penchants, et toutes ces... Dis-toi, tu crois que c'était bien comme ça? Ils te disent, Einen Otov, c'est pas ça le bien. Donc, qu'est-ce que c'est que le bien? Le véritable bien dans ta vie, c'est quand tu peux choisir. C'est extraordinaire. Alors que vous, vous préférez ne pas avoir le choix. Vous voulez rendre malade une femme qui vous demande « qu'est-ce que tu veux manger ?» Si tu lui dis « fais ce que tu veux », tu la rends folle. Elle préfère que tu lui dises « fais-moi un œuf ». Mais si tu lui dis « fais ce que tu veux », why. Mais c'est la même chose dans notre vie. Nous, on a l'impression que c'est bien d'être des petits, roche katane. On nous dit quoi faire, comme ça on est robotisé par Akadosh Baruch Hu. Bidi, 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 bidi. Ça ne marche pas comme ça. ובזמן קיבול השכר הנה ראוי לו שיהיה במצב הופכי לזה כי הנה כל מה שיהיה החומר שולט באותו זמן הנה לא היה אלא מחשיך ומעכב על הנשמה שלא תתדבק בבורא יתברך ועל כן הנה ראוי הוא שלא ישלוט אז אלא הנשמה mais au moment où tu vas recevoir le sachar, ce qu'on appelle olam ha-sachar, là-bas, qui c'est qui se trouve dans le olam ha-sachar? Il n'y a plus de travail, donc il n'y a plus de choix. Donc on ne te demande plus de faire quoi que ce soit. Donc là-bas, c'est la domination de la lumière, donc de la Neshama. Donc la matière, elle est complètement soumise à la lumière divine dans ce domaine-là. Parce que c'est déjà le degré de la récompense. Là-bas, il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus de possibilité de choisir. Vous savez comment on appelle les mitzvot? C'est la prira chofshit. S'il n'y a pas de prira chofshit, il n'y a pas de mitzvot dans la Torah. Vous ne pouvez pas faire de mitzvah si vous n'avez pas un degré de prira chofshit. Ça ne s'appelle pas une mitzvah. C'est pour ça que les morts, ils sont ptourim des mitzvot. Parce qu'ils n'ont plus ce yetzera tov et yetzera ra. Il n'y a plus rien. Donc il n'y a pas de choix. Vous êtes avec moi, vous avez des questions ou ça va? Ou je vais trop vite, ou c'est trop clair, ou c'est pas assez clair? Dites-moi. Non,
c'est bien, c'est très bien.
C'est très bien.
C'est très clair.
Okay. Très clair, merci.
Ve'omna. Alken ivreu shnei olamot. Olam hazeh ve'olam haba. Et c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a créé tout en double. Mm-hmm. Toujours en double, tout. Je vous ai dit, dans ce monde, tout est en double. Et le Olam Hazé et le Olam Abba qui marchent simultanément, c'est en même temps. Ah, Olam Hazé, Hamakom ve'achukim ativim shelo. Ça veut dire le Olam Hazé, il a ses lieux, il a ses règles qui lui sont naturelles, qui lui appartiennent. Hem, Mashera'u ila Adam, Kol Zman Hahishtadlut. Donc l'homme a besoin de tout ça. Parce que c'est là où il travaille, c'est là où il fait les efforts. C'est l'endroit du travail. Par contre, à Olam Haba, à Makom ve'achukim shelo, hem mashera uilo bizman kibul ha-sachar. Là-bas, c'est un autre degré. Il y a d'autres valeurs, d'autres lois, un autre niveau de conscience. Où là-bas, le bien domine. Parce que là-bas, tu reçois déjà une récompense, donc on ne te demande pas de choisir. On passe au quatrième degré, Dalet. Hamin ha-enoshi nishtana. Alors là, c'est une clé extraordinaire, parce que beaucoup de gens me demandent, dans beaucoup de shiurim, mais comment se fait-il que notre corps y soit malade et que la mort et la maladie ben, tout simplement parce qu'on n'est plus l'homme que nous étions au départ. On a changé. Et pourquoi on a changé? Parce qu'il y a eu la faute. Donc nous sommes dans un monde post-traumatique du Chet Adam Arishon. Donc à chaque fois que vous voulez analyser quelque chose, si vous l'analysez selon ce que vous voyez aujourd'hui, eh bien vous tombez dans le panneau. C'est pas vrai. Mais si vous voulez vraiment savoir comment vous auriez dû être, c'est pas par rapport à maintenant qu'il faut voir. C'est par rapport aux premières données initiales, avant la faute.
Mais Ravi, on est quand même ce qu'on est.
Non, on n'est pas ce qu'on est. On est ce qu'on a fait et qu'on est devenu. Okay. C'est ça le problème.
Le potentiel.
Quand on dit Olam Keminhago Noheg, de quel Olam on parle? De quel Minhag? Minhago Shelachshav ou Minhago Hamekori? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, si par exemple j'ai une discussion, vous pensez tous que vous allez mourir, on est d'accord?
C'est batouach.
Lo nachon, c'est lo batouach, ribono shel olam.
Miprina gufanit, Rav?
Lo, ga miprina gufanit. Ça, c'est post-traumatique. Adam Harishon ne devait pas mourir, même pas miprina gufanit. Donc arrêtez de croire que tout le monde doit mourir, même Miprina Goufanit. Je vous ai déjà dit pourquoi. Parce que si vous pensez que la mort, c'est elle qui gagne à la fin, ça veut dire qu'elle est plus forte qu'Akadosh Baruch Hu.
Chilul Hashem.
Chas v'shalom.
Chas v'shalom, c'est facile à dire.
Chilul Hashem.
Ah, y a fait. Maintenant, vous comprenez que la mort, c'est un chilul.
Chilul Hashem.
C'est pour ça qu'on dit un kaddish pour faire un kiddush Hashem. Là où il y a eu chilul Hashem. Alors arrêtez de croire que la maladie et la mort, ça fait partie de notre vie. Non, ça c'est parce que vous regardez après la faute.
Mais maintenant, ça fait partie de notre vie, même si c'est pas, même si c'est post-traumatique. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne peut pas être tous sur cette terre, revenir. Où est-ce qu'on irait? Dans quel espace? Dans le cosmos peut-être?
Pas du tout. Pas du tout, parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que les 400 personnes que vous étiez, madame, que vous étiez 400 personnes, c'est une seule neshama.
Oui, ça, je l'ai compris, ça.
Alors, pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il faut arrêter de croire que... Je vais vous donner un exemple. J'étais en classe, j'étais un bon élève, et un jour, j'ai fait une bêtise, et le professeur m'a dit de sortir. Maintenant que je me suis mis dehors, j'ai deux possibilités. Ou je pense que je dois repartir en classe parce que c'est de là que je viens, ou bien je me dis, je suis foutu. Donc, étant donné que je suis en dehors, maintenant je vais investir dans le terrain de basket. Je suis un bon élève ou un mauvais élève? Un bon élève, qu'est-ce qu'il fait?
Bon élève, il retourne dans la
classe. Tous les 5 minutes, il tape à la porte. Monsieur le professeur, est-ce que je peux revenir en cours? J'ai compris. Alors là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que de toute façon, on est foutu, donc non. On est mort, donc c'est post-traumatique, donc c'est notre vie, on l'accepte comme ça et c'est fini.
C'est pas ça que je dis, non.
Non, mais moi, c'est ce que je dis pour...
Mais je ne comprends pas, c'est ça qui est... C'est-à-dire que ce que je ne comprends pas, pour moi, la Neshama, justement, on est une seule Neshama. Bon, ce que vous dites, alors je ne comprends peut-être pas, c'est qu'on va tous revenir. Je me dis que ce qui compte, c'est que la Neshama, elle revient de toute façon, inévitablement.
Et quand elle revient dans quoi?
Elle revient dans un corps, dans un cul.
Dans quel corps elle va revenir?
Elle va choisir le corps qui est juste pour elle au moment où elle doit se libérer, non?
Pas du tout. Elle va revenir dans tous les corps qui ont servi à son tikkun.
Voilà, exactement.
Donc, vous reconnaître. Donc, Evelyne va dire bonjour à Jean-Marc, qui était aussi la même Neshama. Ils vont dire tous les deux bonjour à Jacqueline, qui était la même Neshama, mais à un autre degré. Et tous les 400 personnes ont fait le tikkun de cette même Neshama. Quand je dis 400, c'est 6000 ou 7000. Ne vous inquiétez pas au niveau de la place, parce que vous êtes dans un monde. C'est comme les gens qui ne veulent pas monter en Israël. À chaque fois, ils me disent cette bêtise. Mais est-ce qu'il y a de la place pour moi? Vous savez comment s'appelle Eretz Israël? Eretz HaTzvi. Vous savez pourquoi? Parce que
ça s'étend.
Ils sont limités.
Ça s'étend. Plus il y a des juifs, plus ça s'étend.
Ça s'étend selon le besoin.
Vous avez reçu un conteneur. Evelyne, vous avez déjà reçu un conteneur?
Oui. Non.
Alors, quand vous allez faire un conteneur, vous allez rentrer 30 mètres cubes. Quand vous allez sortir ces 30 mètres cubes, vous allez sortir les cartons et après, on va vous demander de les rentrer. Impossible. Il n'y a plus de place.
Mais pourquoi les rentrer?
C'est la même chose.
Mais pourquoi les rentrer, Rav? Pourquoi? On les sort.
Non, mais parce qu'il y a des fois des contrôles de douane.
Ah!
Rav Yoel, je peux poser une question?
Ben, Vadaï, on est là pour ça.
Ok. Si le corps qui est dans le Olam Hazeh, qui est le Olam Asiya pour travailler, et que la Neshama et les morts sont dans le Olam Abba, qui est le Olam Abriya, alors qui il y a dans le Olam Yetzira qui est entre les deux?
Je vous l'ai dit la semaine dernière.
Je crois que j'ai oublié.
Ah,
voilà. C'est pour ça que maintenant je vais le marquer.
Hola, ma yetzira. C'est là où il y a le yetzer hatov ou yetzer
hara.
C'est ça en réalité le monde que j'ai souligné en jaune. Mm-hmm. Et là où tu te passes, c'est le vavachibour. C'est là où tu choisis d'être. Où tu fais le lien entre le hé et le hé. Ou bien tu fais la séparation, chas v'chalila, entre le hé et le hé. Donc nous, on est là. On est dans le olam à yetzira. On est dans le olam chez la yetzarim, chez la yetziratiyut.
Et c'est et alors, on passe au olam à Asiya. Quand on agit, on passe dans le olam à Asiya et on revient dans le olam à Yetzira.
À chaque fois qu'on agit, on prend un degré d'ici et on le met ici. Mm-hmm. Et donc, le olam à bas, regardez, c'est la lettre H, c'est exactement pareil qu'en bas. Ça veut dire que l'idéal, c'est quoi? C'est que le olam à bas et le olam à zé soient pareils. Et là, tu vis dans le présent. Hove.
Et en fait, quand on agit dans le hé du haut, ça agit immédiatement dans le hé du bas.
Immédiatement dans le olam abba, dans le degré le plus profond, mais là-bas, tout est en potentiel. L'obéfoar, adain bekoar, rak bekoar, l'obéfoal. Beolam abria hakol nimtsa be'erech absoluti, lelo kivun yadua. C'est toi qui vas prendre le erech absoluti et lui donner un signe plus ou un signe moins. Et c'est ça le yud kevavke, c'est le yud bahové. Beseder Judith.
Toda
rabba. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Donc je vous remercie une fois de plus.
Merci.
Et je nous souhaite
merci.
De
merci,
boire de cette rochma à la kadosh.
Merci beaucoup.
Manuel, la journée était l'Elout Nishmat Rikar Eli Abraham Ben Roxane Esther et la journée est aussi l'Elout Nishmat Etan Ben Chana
et Nishmatam
oui, Amen. Le frère d'une amie qui habite à Marseille.
D'accord. La prochaine fois, j'essaierai d'enlever ce rayon de soleil. Ne croyez pas
que
je suis John Camillo.
C'est la fin du cours.
Je ne suis pas John Camillo, j'ai juste, c'est pas la shrina que j'ai reçue. La vérité, c'est que je ne me suis pas vu. Donc, comme je vous voyais à vous, je ne me suis pas vu. Mais là, quand
maman,
je me vois,
il m'a vu dormir. Bien,
il rayonne.
Raphaël Arroche. Raphaël.
Ken Anita Septimus.
Oui, une minute. J'ai une question très pointue à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez du vaccin qui arrive à grands pas.
Aïe, aïe.
Alors, c'est une question très profonde, elle est pointue. Je sauche du 47 et quand mes chaussures sont pointues, ça fait très mal. Donc, on va répondre Bezrat Hashem à cette question la prochaine fois.
Amen. Super, merci.
Toda Rabba, shalom.
Shalom.
Shalom.